Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours Microsoft Virtual Academy, tout savoir pour déployer votre application web dans le cloud Microsoft Azure. Je suis Benjamin Talmar et je suis conseiller technologique Microsoft Azure chez Microsoft France et je vais vous accompagner durant ces 6 modules dédiés au service Microsoft Azure vous permettant de déployer une application web. Donc le principe, c'est vraiment de vous donner les bases nécessaires à déployer votre première application sur Microsoft Azure. On va rentrer dans les détails d'un certain nombre de services, mais on ne va pas pouvoir les couvrir tous à 100%. Vous avez pour chacun de ces services énormément de documentation disponible, parfois des cours MVA dédiés à ces services. Donc j'essaierai de vous les pointer dans les ressources de ce cours. Le but aujourd'hui, c'est vraiment que vous ayez l'ensemble des bases nécessaires pour avancer. Donc ce cours est composé de 6 modules. Le premier va vraiment être une introduction sur Microsoft Azure, sur les services principaux que sont Azure Website et Azure Virtual Machine qui vont vous permettre d'héberger votre code, votre application web en tant que telle. Les modules 2 et 3 seront d'ailleurs dédiés à ces deux services. Le quatrième module va être là pour vous indiquer les différentes options que vous avez pour stocker vos données, que ce soit les fichiers, que ce soit des données relationnelles, que ce soit des données NoSQL. Vous avez énormément de possibilités dans Azure et on fera le point dans ce module 4. Le module 5 sera consacré à un certain nombre de services vous permettant d'aller plus loin, comment ajouter du cache, comment envoyer des emails, comment ajouter un CDN, donc un Content Delivery Network, etc. Et enfin, le dernier module vous présentera un certain nombre de bonnes pratiques qui sont valides pour des architectures cloud, et en l'occurrence pour des architectures sur Microsoft Azure. Pour ce cours, il y a très peu de prérequis. En fait, il n'y en a qu'un seul. Ce prérequis est seulement si vous souhaitez effectuer l'ensemble des manipulations que je vais faire de mon côté. Et ce prérequis, c'est d'avoir un abonnement sur Microsoft Azure. Donc cet abonnement, si vous n'en avez pas, vous pouvez l'ouvrir via 3 moyens différents gratuitement. Le premier, si vous êtes un abonné MSDN, donc si votre entreprise vous a mis à disposition un compte MSDN, vous avez la possibilité d'activer les bénéfices Azure de ce compte MSDN. Donc ça vous donne droit à 115 euros de ressources par mois tant que votre abonnement est valide. Le deuxième, c'est si vous êtes une start-up, vous pouvez rejoindre un programme qui s'appelle Bispark et qui vous donne 115 euros de ressources chaque mois, cette fois pendant 3 ans. Donc idéal pour lancer votre activité sur Azure. Et enfin, si vous n'êtes ni une start-up ni abonné MSDN, vous avez la possibilité d'ouvrir une version d'évaluation de Microsoft Azure qui vous donne 150 euros de ressources le premier mois de l'ouverture de votre compte. Donc tout ça, ça c'est à peu près équivalent à 3 VM par jour pendant 16 heures par jour, ou alors à 80 VM pour un test d'une vingtaine d'heures, ou même 50 nœuds HD Insight pour 10 heures, etc., etc. En fait, à chaque fois que vous avez un compte sur Microsoft Azure, la première chose à comprendre, c'est que vous pouvez faire finalement tout et n'importe quoi. Vous avez accès à l'ensemble des services Microsoft Azure et à vous de jongler avec le crédit qu'on vous donne dans ces différentes offres, ou alors à vous de jongler avec les différents services que vous souhaitez et qui vous seront facturés à la fin du mois si vous êtes sur un compte où vous avez une facturation, bien entendu. Le deuxième prérequis, c'est d'avoir n'importe quel éditeur de code à votre disposition, l'éditeur de code qui vous permet de réaliser une application web aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous faites du .NET, bien sûr, on parle de Visual Studio. Mais si vous faites du PHP, vous faites peut-être du PHP sous WebMatrix, ou peut-être du PHP sous Eclipse, ou peut-être du PHP avec n'importe quel autre éditeur qui existe sur le marché, que ce soit sous Mac, sous Windows, etc. Tout ça va être totalement indépendant de Microsoft Azure. On le verra tout à l'heure, Microsoft Azure est très ouvert à ce niveau-là. Il va pouvoir héberger du code qui provient de n'importe où, vraiment très cross-platform, et va pouvoir héberger un certain nombre de technologies qui sont ou qui ne sont pas des technologies Microsoft. Donc c'est parti pour ce premier module. On va tout de suite commencer par une petite introduction sur Microsoft Azure. Déjà rappeler quel est l'intérêt d'un hébergement de type cloud. Donc ce premier intérêt, c'est l'agilité que va vous amener ce type de plateforme. En effet, Sur une plateforme de type cloud, quand vous avez besoin d'une ressource, il vous suffit de demander cette ressource et quelques minutes après, vous l'avez à votre disposition. C'est très différent des processus où vous commandez une machine, un matériel et vous l'avez quelques semaines, voire quelques mois plus tard. Il n'y a aucune formalité administrative ou quoi que ce soit nécessaire quand vous avez besoin d'une ressource sur un fournisseur de cloud. Ne serait-ce en fait la seule formalité, c'est de faire tourner la bonne commande dans le sens PowerShell, ligne de commande, ou alors de cliquer sur le bon bouton sur l'interface qui vous donne généralement ce fournisseur de cloud. Cette agilité, ça va aussi vous permettre de déployer des services seulement au moment où vous en avez besoin. Par exemple, si vous avez besoin de services la semaine mais pas le week-end, vous pouvez tout à fait imaginer éteindre ces services ou ne plus utiliser ces services le week-end et payer simplement pour ce que vous avez utilisé. Donc ça, c'est un aspect très intéressant et qui va d'ailleurs rejoindre le dernier carré, les économies que vous allez pouvoir faire sur votre infrastructure grâce à ce genre de mécanisme. Enfin, la troisième chose, c'est le passage à l'échelle que vous allez pouvoir avoir. Microsoft Azure, comme l'ensemble des fournisseurs de cloud, c'est des centaines de milliers de serveurs qui sont à votre disposition à n'importe quel moment. Bien sûr, vous appelez certainement pas Facebook, certainement pas Twitter, certainement pas Amazon, je parle du site e-commerce. Vous n'avez pas forcément besoin de toute cette échelle-là, mais savoir que vous pouvez commencer une application web avec un serveur, mais qu'au fur et à mesure du succès commercial, vous pourrez sur la même plateforme doubler le nombre de serveurs pendant les soldes, ou alors tripler le nombre de serveurs l'année suivante parce que vous avez un succès commercial très fort. Tout ça, c'est censé être rassurant pour vous. Vous avez la possibilité à n'importe quel moment de bénéficier de cette échelle hors norme que vous permet les fournisseurs de cloud. Et tout ça, effectivement, cette échelle, c'est aussi un aspect au niveau économique, puisque chacun des fournisseurs de cloud, en commandant plusieurs dizaines de milliers de serveurs par mois, par an, que sais-je, va pouvoir avoir des économies d'échelle vraiment importantes et permettra donc de faire bénéficier ces économies, le client final, vous, qui pourront, vous pourrez avoir un certain nombre de ressources à très bas coût. Un point important quand on parle de cloud computing, c'est de comprendre de quel modèle d'hébergement on parle. Concrètement, on va distinguer ces trois modèles suivants. Forcément le on-premise, donc qui n'est pas forcément un modèle de cloud computing, mais qui est l'hébergement de ses ressources chez soi, dans son data center. Parfois, on peut appeler ça un cloud privé, si les mécanismes d'automatisation, par exemple, ont été mis en place. Là, le client, vous êtes responsable de l'ensemble des couches qui vont composer une application. Du code de l'application jusqu'à la partie physique, ou plutôt l'inverse de la partie physique jusqu'au code de l'application, en passant par l'OS, en passant par le moteur d'exécution, le .NET Framework, le Apache, le 2IS, la couche de virtualisation, que ce soit du Hyper-V, du VMware, vous êtes responsable de l'ensemble de l'infrastructure, de l'ensemble des couches nécessaires à votre application. Le deuxième modèle, c'est l'infrastructure as a service, aussi appelé le IaaS. Donc ce modèle consiste à demander à un fournisseur de cloud de gérer pour vous les couches physiques de votre infrastructure, c'est-à-dire le réseau, le stockage, les serveurs, la couche de virtualisation, mais aussi physiquement le data center, la location ou l'achat des mètres carrés nécessaires à ce data center, le salaire du gardien du parking de ce data center, etc., etc. Vous commencez à vous occuper de votre infrastructure à partir de l'OS, à partir du système d'exploitation que vous gérez, ainsi que l'ensemble des couches au-dessus de ce système d'exploitation. Le troisième modèle, c'est le Platform as a Service. C'est d'ailleurs le modèle avec lequel Azure a commencé, où là, on était parti du postulat que ce qui était intéressant pour nos clients, c'était vraiment leur application et les données propres à cette application, c'est-à-dire leur métier. C'était pas de gérer des OS, c'était pas de gérer des moteurs d'exécution, des IIS, des runtime hein, en anglais. C'était vraiment de gérer l'application et de demander à un fournisseur de gérer l'ensemble des couches nécessaires pour faire tourner cette application. Donc c'est le plateforme de service. Microsoft en l'occurrence va être responsable des couches physiques bien entendu, mais également du système d'exploitation, également du runtime, également des éventuels middleware, va gérer toutes les couches nécessaires pour faire tourner votre application. Vous fournissez une application le fournisseur de cloud, Azure en l'occurrence, fait tourner cette application. Et enfin, le dernier modèle, c'est pas un modèle d'hébergement, hein, j'en ai parlé de trois modèles d'hébergement, c'est un modèle économique, c'est le software as a service. Concrètement, Microsoft, par exemple, avec l'offre Office 365, utilise ce modèle économique pour vendre son service de messagerie, par exemple, avec Dynamics CRM Online. C'est du CRM, donc un logiciel de gestion de la relation client, qui est vendu en tant que service aux clients finaux. Vous, en tant que client, quand vous utilisez du PaaS ou du IaaS, du plateforme de service ou de l'infrastructure as a service, vous pouvez tout à fait créer des logiciels qui vont être revendus en tant que software as a service. Donc ça, je parle bien sûr du cas où vous êtes un éditeur de logiciels, un éditeur de services par exemple. Donc ces modèles vraiment très importants à comprendre, notamment le PaaS et le IaaS, puisque c'est l'ensemble des services de Microsoft Azure vont être catégorisés dans l'un ou dans l'autre de ces modèles. Concrètement, Azure c'est quoi? Bah, c'est tout d'abord des data centers. Des data centers qui vont être répartis en régions que j'ai affichées sur cette carte. Ces régions, elles sont au nombre de 13 aujourd'hui et à 15 fin 2014. Donc il y en a également deux autres qui sont opérés en Chine, on les voit en vert ici, qui sont des data centers opérés par un partenaire qui s'appelle 21 Vianet. Ils sont commercialisés d'ailleurs, les services Azure sont commercialisés par ce partenaire, donc c'est un petit peu spécifique, mais tout le reste, tout ce qui est en gris est disponible aujourd'hui via Microsoft. C'est Microsoft Azure disponible via Microsoft. Et ce qui est en bleu, c'est la partie qui a été annoncée, c'est-à-dire deux data centers, en tout cas deux régions, comprenant un certain nombre de data centers en Australie. Donc si on se concentre sur l'Europe, on parle de North Europe, Dublin, et West Europe, Amsterdam. Ce sont les deux data centers européens à ce jour. Ce qu'il est important de noter, c'est qu'un data center, ça ne ressemble plus à ce qu'on pouvait voir sur la photo de gauche il y a quelques années. Ça n'est plus des couloirs remplis d'armoires de serveurs, mais ça ressemble plutôt à ce qu'on voit sur la droite, c'est-à-dire des espaces parfois à ciel ouvert dans lesquels on va stocker des conteneurs qu'on va brancher à l'électricité, qu'on va brancher au réseau, qu'on va brancher au système de refroidissement et qui va nous permettre, bah, logiquement, de créer cette infrastructure qui est Microsoft Azure, où un ensemble de services va pouvoir être exécuté sur du matériel comme ça qui va être reçu par conteneur. Quand il y a un problème sur un serveur, bah, ce serveur il est logiquement sorti de Microsoft Azure, du réseau Microsoft Azure, et aucun opérateur va rentrer dans le conteneur pour aller réparer ce serveur, pour aller changer un disque dur, pour aller changer une barrette de RAM ou quoi que ce soit. Ces conteneurs ne vont jamais être ouverts. S'il y a un taux de panne trop important dans un conteneur, on va le renvoyer au fabricant pour recyclage, on va en commander un nouveau et on va le remplacer. Au niveau un petit peu plus logique, Microsoft Azure, c'est un ensemble de services qu'on va pouvoir comparer finalement à une boîte à outils. Cette boîte à outils, elle va vous permettre de piocher dedans pour réaliser l'architecture de votre application. On va retrouver dans ces outils, dans ces services, des services de très haut niveau, par exemple ce qu'on va avoir avec Media Services, Azure Media Services, qui va permettre, donc c'est très spécifique, ça va permettre à récupérer un flux vidéo, à l'encoder, par exemple en direct, et à le rediffuser, à le streamer à un certain nombre de devices. Si vous avez regardé les Jeux Olympiques de Sochi sur Internet, bah vous êtes passé par Media Services. C'est Media Services qui était utilisé par un grand nombre de sites diffusant officiellement les Jeux Olympiques de Sochi. Il y a des services aussi beaucoup plus génériques, par exemple les Virtual Machines, Azure Virtual Machine, qui est là vraiment l'exemple typique de service IaaS pour Infrastructure as a Service, où Microsoft met à disposition des VM sur lesquels bah, vous faites concrètement ce que vous avez envie de faire. Vous prenez votre Windows, vous prenez votre Linux et vous faites tourner ce que vous avez envie de faire tourner. Ça peut être une application web, ça peut être un serveur de base de données, ça peut être un service de cache, ça peut être un SharePoint, ça peut être un Cassandra, etc., etc., etc. Vous avez la main sur l'OS, vous avez les droits administrateurs sur cet OS, vous faites ce que vous souhaitez. Et il y a des services également qui sont des services qui sont un petit peu à mi-chemin entre les deux en termes de spécificité. Par exemple, Azure Website, lui, c'est un service qui permet d'héberger du code pour des applications web. C'est un service assez spécifique dans ce sens, mais très générique dans le sens où vous allez pouvoir déployer n'importe quel type d'application web, que ce soit du .NET, que ce soit du PHP, que ce soit du Java, etc. Donc tous ces services ici, on va en voir certains pendant ces quelques modules. Certains n'ont pas forcément de rapport avec des applications web, mais tous sont disponibles dans Azure dès le moment où vous ouvrez un compte sur Microsoft Azure. Un autre point important, je parle bien depuis tout à l'heure de Microsoft Azure. Normalement, j'ai pas dit Windows Azure. Si jamais ça arrive, vous me pardonnez. On a changé de nom il y a quelques mois. Pourquoi? Puisqu'on voulait refléter la volonté d'ouverture de la plateforme. Sur Microsoft Azure, aujourd'hui, on va pouvoir héberger des applications qui sont écrites, bien entendu, en .NET, mais également en Node.js, en PHP, en Python, en Java, etc., etc. On va pouvoir héberger sur Azure des bases de données SQL Server, mais aussi des bases de données Oracle, pourquoi pas des bases de données MySQL, du NoSQL comme du MongoDB, du Redis, etc., etc., etc. Les services à destination d'applications mobiles d'Azure, comme Azure Mobile Services ou Azure Notification Hub, ont été faits pour adresser pas que des Windows Phone ou des Windows 8. D'ailleurs, dans certains cas, les SDK pour Android et pour iOS sont sortis avant ceux dédiés au device mobile de Microsoft. Bref, il y a une vraie volonté d'ouverture. Qui dit Microsoft Azure ne dit pas forcément Windows, ne dit pas forcément .NET, ne dit pas forcément SQL Server. Microsoft Azure est très très ouvert à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec ces différents modules, je vais essayer de mixer un petit peu les deux mondes, Microsoft et le reste. J'ai personnellement un petit peu plus d'expérience sur .NET, SQL Server, Windows, etc. Donc vous m'en voudrez pas si je fais un petit peu plus de Visual Studio ou de .NET. Mais vraiment, n'hésitez pas à venir sur Microsoft Azure, quelles que soient les technologies que vous utilisez, c'est fait pour ça, c'est vraiment au cœur de nos produits. C'est parti, on va commencer tout de suite avec une première démo pour vous présenter le portail azure.microsoft.com. Donc ce portail, il est très intéressant puisqu'il va vous permettre de retrouver l'ensemble des informations techniques, marketing, mais aussi de tarification des différents produits qui sont disponibles sur Microsoft Azure. Par exemple, dans fonctionnalités, vous allez retrouver l'ensemble des services de Microsoft Azure. J'en ai cité quelques-unes comme les machines virtuelles ou alors Notification Hub que j'ai cité également, concentrateur de notification en français, etc., etc. Donc si vous allez retrouver la description vraiment en mode un petit peu marketing, quelque peu technique, mais vraiment résumé finalement du service, vous allez trouver dans la partie documentation l'ensemble des informations techniques, soit service par service, soit technologie de développement par technologie de développement. Donc si je veux la documentation technique sur Notification Hub et que je veux cibler des devices sur Android, je vais pouvoir démarrer les tutoriels qui vont bien ici. Les éléments de tarification sont disponibles également sur ce portail, bien entendu. Si je retourne sur les machines virtuelles, je vais pouvoir voir les éléments de tarifs des machines virtuelles sur les différentes régions et dans les différentes devises dans lesquelles Microsoft Azure est disponible. Dans téléchargement, vous allez retrouver les différents SDK, que ce soit le SDK .NET, le SDK PHP, Node.js, etc., etc. Et également, ce qui va vous permettre de jouer avec Azure dans le sens automatisation, tout ce qui est ligne de commande, que ce soit du PowerShell ou une ligne de commande cross-plateforme qui va être basée sur Node.js, que vous allez pouvoir utiliser sous Mac ou sous Linux par exemple. Dans Galerie, vous retrouvez l'ensemble des images disponibles dans la galerie des machines virtuelles, on va en reparler plus tard. L'ensemble des fonctionnalités disponibles dans le Azure Store, pareil, on en reparlera un peu plus tard. Dans Communauté, vous retrouvez le lien vers le blog officiel de Microsoft Azure, vers le flux RSS des nouveautés, des mises à jour de Microsoft Azure. Donc si vous voulez être tenu au courant de toutes les mises à jour qui se passent, c'est à ce flux qu'il faut vous abonner. Et enfin, dans l'onglet support, en plus de retrouver les informations dans deux supports, comme son nom l'indique, comment obtenir un contrat de support, ce genre de choses, comment accéder au forum où vous avez un support gratuit de la part de Microsoft et de la part de la communauté. Vous retrouvez aussi le tableau de bord des services où vous pouvez voir en un clin d'œil si tout va bien sur Azure ou non. En l'occurrence, pour l'instant, tout va bien, ce qui est plutôt encourageant. Et vous retrouvez également les informations légales et les informations par rapport à la sécurité, la confidentialité, la conformité de Microsoft Azure. Si vous voulez savoir si Microsoft Azure est bien certifié ISO 27001 par exemple, c'est là que ça se passe. Vous vous rappelez la version d'évaluation dont j'ai parlé tout à l'heure? Le lien en haut à droite vous permet d'ouvrir un nouveau compte de trial qui vous donne accès à ces fameux 150 euros de ressources Azure gratuitement pendant un mois. Et enfin, vous avez ce lien également ici, portail, qui vous ouvre le portail ici que j'ai déjà ouvert au préalable, qui vous permet, une fois que vous avez votre compte Microsoft Azure, de retrouver l'ensemble des services que vous avez provisionnés. Ici, ce portail est plutôt vide de mon côté, j'ai qu'un seul service qui est provisionné, mais je vais tout de suite en ajouter un nouveau. Ça se passe ici, le bouton New. Je vais ajouter un compte de stockage. Donc un compte de stockage, c'est ce qui va me permettre de stocker des fichiers, par exemple, ou des objets dans ce qu'on appelle Azure Storage. Je vais l'appeler Temp Benjat MVA, il faut que ce nom ne soit pas pris par quelqu'un d'autre, ce n'est pas le cas, tout va bien. Et je vais choisir le data center que je souhaite utiliser, plutôt la région sur laquelle je veux déployer mon compte de stockage. Tout ce que vous allez déployer sur Azure, vous allez choisir la région sur laquelle vous les déployez et vos données ne sortiront pas de cette région. Ici, si j'utilise North Europe et que je ne demande pas de redondance géographique, toutes mes données resteront en North Europe. Ça, c'est vraiment très important, c'est un contrôle qu'on vous donne sur vos données. Donc, pour créer un compte de stockage, il faut quelques secondes, minutes au tout pire. On va pas attendre, on verra tout à l'heure si ça a bien fonctionné. En attendant, je vais vous montrer également un autre portail qui est disponible sur portal.azure.com. Ce portail, c'est le prochain portail, qui est en preview aujourd'hui et qui a pour but de présenter les ressources Azure non plus comme une liste de ressources indépendantes, mais plutôt comme des ressources formant un groupe représentant par exemple une application. Si vous avez besoin pour votre application d'un site Azure Website, plus d'un compte de stockage, plus d'un compte d'un SQL Database par exemple, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle un ressource group qui va contenir l'ensemble de ces services. Ces services vont être regroupés notamment pour faciliter leur gestion, mais également pour faciliter la visualisation des informations de monitoring ou la visualisation des informations de billing, de facturation. Donc c'est vraiment une autre façon de voir vos ressources sur Azure. C'est le nouveau portail, il est encore en preview, donc c'est pas encore le portail de production. Le portail de production, c'est celui-ci, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on utilisera les deux pendant ce cours, pendant les différents modules. Alors ce qui est important de comprendre, c'est les différentes ressources que vous allez pouvoir utiliser sur Azure pour héberger le code de votre application web. Historiquement, ce qui est apparu en premier, c'est ce qu'on appelle les web et worker roles. Parfois on va appeler ça les cloud services, mais j'essaye d'éviter de les appeler les cloud services puisque les cloud services peuvent être utilisés dans plusieurs cas sur Azure, donc j'essaye de faire attention et de parler des web et des worker roles. Ici, par rapport à la simplicité d'utilisation et du contrôle qui vous est donné sur la plateforme sous-jacente, on est vraiment dans le juste milieu. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir accès à la plateforme qui va héberger votre application, en l'occurrence Windows. Vous allez pouvoir RDP sur votre plateforme, vous allez pouvoir ouvrir une session Windows à distance, dit autrement. Vous allez pouvoir avoir des droits administrateurs de Windows pour installer ce que vous souhaitez sur votre machine. Mais vous avez également un certain nombre de choses qui sont faites pour vous simplifier la vie. Par exemple, les mises à jour Windows sont gérées automatiquement pour vous. Si jamais une machine de votre ferme de machines tombe, puisque ça arrive, des machines vont tomber, des machines vont devoir être redémarrées, automatiquement, Azure va redémarrer une nouvelle machine pour vous et va redéployer votre application, faire tourner votre script d'initialisation de la machine et reprendre l'application là où elle en était à quelques minutes avant le problème ou avant la mise à jour ou avant le redémarrage en tout cas du rôle en question. Donc on a vraiment le bon mix entre simplicité d'utilisation, les choses que fait Microsoft Azure pour vous, et contrôle sur la plateforme, c'est-à-dire les choses que vous pouvez faire sur la plateforme sous-jacente. Le deuxième mode, c'est les websites, Azure Website, qui est un service, lui, qui se positionne vraiment du côté de la simplicité. Pourquoi? Puisque tout est fait pour vous faciliter la vie. En fait, on vous a mis dans un bac à sable, votre application est dans un bac à sable, plus précisément dans un processus IIS, un W3WP.exe pour ceux qui connaissent IIS, et qui va vous permettre d'héberger votre application, que ce soit du .NET, du PHP, du Node.js, etc. Mais sans avoir la main, sans avoir le contrôle sur tout les couches sous-jacentes. Vous n'aurez pas accès à la configuration machine de .NET, vous n'aurez pas accès à la configuration de Windows, vous n'allez pas pouvoir rajouter des modules dans Windows, etc., etc. On vous donne un bac à sable qui vous permet normalement d'héberger votre application web et ça vous donne accès à beaucoup de simplicité. Vous n'avez pas à gérer tout ce que vous n'avez pas à contrôler finalement. Donc c'est vraiment la méthode la plus simple pour héberger une application web sur Azure. Et enfin, de l'autre côté, on a les virtual machines. On en a un petit peu parlé, c'est le IaaS, c'est la mise à disposition de machines virtuelles, Windows ou Linux, dans Azure, sur lequel vous faites ce que vous voulez. Donc qui dit faire ce que vous voulez, dit héberger une application web sans aucun souci. Vous ouvrez le port 80 et vous hébergez votre application web. Là, vous avez accès sur l'ensemble de l'OS et vous faites ce qu'il vous plaît. Donc, c'est moins simple, c'est-à-dire qu'il y a moins de choses qui est gérées par Windows Azure, pardon, par Microsoft Azure, mais vous avez un petit peu moins de contrôle. Au fil des mois, depuis quelques mois, on a essayé de rendre ces machines virtuelles de plus en plus simples, c'est-à-dire de faire optionnellement de plus en plus de choses pour vous. On va par exemple mettre un agent permettant de configurer automatiquement l'antivirus. Peut-être dans quelques mois, il y aura un agent vous permettant de mettre à jour Windows. Il y a un agent qui vous permet de faire tourner des scripts à l'initialisation d'une machine, etc., etc. Donc les virtual machines vont ressembler de plus en plus à ce qu'on connaissait au niveau simplicité des web et worker role. Donc concrètement, aujourd'hui, les deux choix qui semblent le plus être dans l'air du temps, c'est Azure Website pour sa simplicité ou Virtual Machine pour son aspect vraiment ouvert, c'est-à-dire vous faites vraiment ce que vous souhaitez faire avec l'OS que vous avez choisi, et les web et worker role finalement vont avoir un petit peu moins d'intérêt grâce au fait que les virtual machines vont être de plus en plus automatisées, de plus en plus managées. Mais justement, parlons en détail de ces différents services. En l'occurrence, les web et worker role pour commencer. Donc, les web worker role, c'est quoi? C'est vraiment du platform de service. Vous allez créer un package grâce à Visual Studio ou à Eclipse, grâce à un plugin qui a été développé par MS OpenTech. Et vous allez ensuite déployer votre application sur Azure. Cette application, elle va avoir un certain nombre de paramètres qui va dire à Azure, utilise tant de web role, c'est-à-dire tant de machines configurées avec IIS, et tant de worker role, c'est-à-dire tant de machines configurées sans IIS, mais avec un exécutable qui va pouvoir tourner en continu pour effectuer des tâches de fond. Le grand avantage de cette plateforme, c'est qu'un certain nombre de choses sont gérées pour vous, c'est-à-dire la mise à jour des machines par exemple, mais le gros inconvénient, c'est que vous êtes sur des machines qui sont non persistante, c'est-à-dire que si vous faites quelque chose sur une machine, comme par exemple l'écriture d'un fichier de log sur ces deux points, ben la minute suivante, peut-être qu'on vous a migré sur une autre machine, parce qu'on avait besoin de mettre à jour la première ou parce que la première est tombée. Automatiquement, votre package d'application est redéployé sur une nouvelle machine pour respecter les éléments de configuration que vous nous avez indiqués, mais potentiellement, ben vous avez perdu ce que vous aviez écrit sur ces deux points. Donc en fait, pour pouvoir utiliser ce mode, il faut des environnements dits sans état, ou stateless en anglais, sur lequel votre application ne craint pas d'être redémarrée de la sorte. Donc on va tout de suite aller voir du côté du portail comment on va créer les web worker roles. En l'occurrence, ça se passe ici dans Cloud Service. Vous pouvez créer un Cloud Service ou sinon utiliser le bouton plus en bas. Je vais utiliser Quick Create. Temp Benjat MVA Cloud Service CS. Je vais aller en North Europe comme tout à l'heure. Et ce Cloud Service va être créé. Alors là, c'est vraiment pratiquement immédiat. Pourquoi? Puisque c'est une coquille vide pour l'instant. Pour la remplir, cette coquille, je vais ouvrir Visual Studio et je vais créer un package qui va contenir à la fois le code de mon application et la définition de mes web roles et worker roles qui vont être utilisés dans ce cloud service. Donc pour ça, je vais nous montrer. Je vais utiliser .NET Framework 4.5 et j'ai ici un nœud finalement dans les templates qui s'appelle Cloud dans lequel j'ai Azure Cloud Service. Donc Azure Cloud Service, c'est les web et worker roles. Je vais l'appeler de la même façon que j'ai appelé ici donc temp benjat MVACS, tempinjat MVACS. Et la prochaine étape, c'est la configuration de mes web roles et de mes work roles, ou plutôt la définition des rôles que je souhaite. En l'occurrence, je souhaite un web role qui va être mon front ou mes front, et un work role qui va être mon back pour, par exemple, générer des factures à intervalles réguliers ou pour traiter une commande une fois que le front m'a envoyé une commande. Quand je valide, j'ai la fenêtre, l'assistant de Visual Studio qui va me demander quel template je souhaite utiliser. En l'occurrence, je vais utiliser un template vide sur lequel je vais configurer des webforms. Cette nouvelle fenêtre, c'est une fenêtre qui est apparue avec Visual Studio 2013. C'est vraiment la volonté pour ceux qui font de la SV.NET, donc pour ceux que ça intéresse, de rendre transparente en fait le choix du framework ASP.NET qui va être utilisé, que ce soit MVC, que ce soit Webform, que ce soit pourquoi pas Signaler, etc. On veut partager le plus en plus de choses. Donc ça a été assez rapide pour créer ce projet. J'ai un front qui est créé. Donc c'est un projet web tout à fait classique pour ceux qui font du .NET. Un back qui contient un fichier qui s'appelle workerRole.cs qui va contenir le code qui va tourner de manière continue. Ici, donc vous voyez, c'est vraiment un while, donc c'est pas un while égal true, puisqu'on a bien sûr la capacité d'arrêter ce code selon différents mécanismes que je vais pas détailler ici. Et tant que ce code tourne, on va pouvoir effectuer un certain nombre de choses. Le front, on l'a dit, tout à fait classique. Et le dernier projet qui est ici, c'est un projet qui va me permettre de configurer les différents rôles de mon application. Donc si je double-clique sur back, je vais avoir la fenêtre de configuration de mon rôle, de mon worker role, de mon back office, où je vais pouvoir dire mais je veux qu'il y ait tant de machines pour assurer ce rôle. Et je veux que ces machines soient de cette taille-là. En l'occurrence, je vais faire ça sur le front, pourquoi pas. Je vais indiquer que je souhaite deux machines de taille small. Une fois que j'ai validé ces modifications, mais je suis prêt à publier sur Azure. Vous remarquez ici que je suis logué avec mon compte Benjamin Talmar, donc j'ai accès à l'ensemble des abonnements Azure sur lequel j'ai le droit de déployer. En l'occurrence, je vais utiliser celui-ci et je vais pouvoir aller chercher les différents cloud services que j'ai déjà créés, celui que j'ai créé tout à l'heure, ou en créer un nouveau directement. Je vous passe les différentes options de configuration, c'est pas le but de la manipulation. Mais sachez que vous avez la possibilité de configurer un certain nombre de choses comme le fait d'utiliser la version debug de votre application, etc., etc. Donc là, le déploiement a commencé. Vous le voyez pour l'instant en bas à gauche, ici en petit. Voilà, vous avez la fenêtre qui a changé pour vous indiquer que c'est en cours. En l'occurrence, j'ai un warning, c'est pas très grave, c'est que j'ai laissé un élément de configuration qui pointe sur une base de données locale. Il l'a détecté, il m'indique que ça ne marchera pas sur Azure, mais c'est pas grave puisque je ne vais pas aller plus loin et je vais revenir sur les slides. Le deuxième mode, c'est Azure Website. Donc Azure Website, le principe c'est finalement du PaaS, hein, du Platform as a Service, mais c'est même un peu plus que ça, on pourrait appeler ça de l'IIS as a Service. Vous avez la possibilité de déployer une application dans IIS de manière transparente, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de créer un package spécifique à Azure. Vous allez pouvoir passer par l'une des méthodes de déploiement qui va être tout à fait générique, rien de spécifique à Azure, WebDeploy, FTP, Git, Bitbucket, etc., etc. On peut même déployer par Dropbox si on le souhaite. Et vous allez déployer du code qui tourne avec l'un des frameworks disponibles dans Azure Website. Par exemple ASP.NET, bien entendu, mais également PHP, ou Node.js, ou Python, ou Java, etc., etc. Donc finalement, que vous soyez sous Windows pour développer, que vous soyez sous Mac, sous Linux, que vous fassiez de l'ASP.NET, du PHP, que vous voulez déployer via Git, via FTP, tout ça c'est totalement indépendant pour Azure Website. Tant que votre code peut tourner sur IIS, il pourra tourner sur Azure Website. Et l'équivalent du rôle, un petit détail, c'est Azure Web Jobs, et on en parlera un petit peu plus en détail dans un des prochains modules. Ce qui est intéressant également, c'est que votre site, votre Azure Website, vous pouvez le définir comme étant un site mutualisé, c'est-à-dire vous le déployez sur un serveur quelconque géré par Microsoft Azure, ou alors vous pouvez dire à Azure, je veux avoir mon serveur dédié pour faire tourner ce site, ou même mes serveurs dédiés sur lesquels je vais pouvoir faire tourner mon site ou mes sites. En fait, vous voyez Azure Website comme une entité à part entière, alors que potentiellement, vous avez déployé votre code grâce à Azure sur 10 machines différentes pour pouvoir faire tourner des millions de requêtes par heure si vous le souhaitez. Donc c'est plus un package qui est déployé automatiquement sur de nouvelles instances, c'est bien le code qui est automatiquement déployé sur vos nouvelles instances. Donc on va tout de suite créer un nouveau website. Donc c'est le même mécanisme que tout à l'heure. On va sur le plus ou sur Create a Website ici. On va lui donner un nom. Donc là il faut que je sois spécifique sur le nom que je souhaite utiliser. Voilà, pardon. Majat Temp MVA, ce nom n'est pas pris donc c'est parfait. Je vais pouvoir regrouper un certain nombre de mes sites en un hosting plan pour pouvoir dire par la suite je veux que tous les sites qui sont dans ce hosting plan soient hébergés sur le même serveur. Je passe les détails pour l'instant et je lui indique le data center sur lequel je veux déployer, en l'occurrence je veux aller à Dublin. Donc pareil, en quelques secondes, le site va être créé. Il n'y a pas grand-chose qui est fait lors de cette création, puisque ça va être là aussi une coquille vide sur laquelle je vais pouvoir déployer mon code par la suite. Et en l'occurrence, le code que je vais déployer, ça va être un code, cette fois, PHP. Je vais lancer WebMatrix, qui est l'éditeur que j'utilise pour faire du PHP de mon côté. Et je vais tout de suite créer un nouveau projet dans la section PHP, je vais créer un site vide que je vais appeler Benjat Temp MVA également, même si je suis pas obligé d'utiliser le même nom, hein, c'est deux noms qui n'ont rien à voir. Ici, je suis aussi logué avec mon compte Microsoft qui me permet d'aller voir mes différents abonnements et même de créer à la volée un site sur Azure Website, mais je peux également lui dire que je veux pas créer un nouveau site. Là, je veux créer un site en local, comme si j'avais aucun rapport avec Azure pour l'instant. Je crée un site PHP que j'aurais pu créer avec Notepad si je le souhaitais. Et dans mon index PHP, bah, je vais simplement indiquer un Hello World pour l'instant. Hello World, je vais faire ce qu'il y a de plus simple, c'est pas très joli, mais ça va marcher, c'est essentiel. Ensuite, je vais utiliser FileZilla pour déployer. FileZilla pour déployer mon site par FTP. Donc pour ça, il faut bien sûr que je connaisse un certain nombre de choses sur mon site. Et je vais les retrouver sur le portail. Je clique sur le nom de mon site, dans le dashboard. Je vais déjà commencer par mettre à jour, réinitialiser mes informations de publication. Donc j'ai mon username qui est ici, et je vais réinitialiser mon password. Comme ça, ça vous permet de réinitialiser les valeurs qui sont mises par défaut. Une fois que j'ai fait ça, je vais devoir récupérer le nom d'hôte FTP. Le nom d'utilisateur. Et le website, bien sûr, j'ai pas à le copier-coller. Il vient directement de ma mémoire. Une fois que je me connecte, je vais me retrouver avec ici un répertoire site suivi d'un répertoire www route. Je retrouve un fichier ici qui n'est rien d'autre que le fichier qui dit qu'il n'y a rien sur mon site. Et je vais le remplacer tout de suite par mon index.php. Et là, en naviguant sur l'adresse de mon site, je vais pouvoir voir mon Hello World, tout a bien fonctionné. Donc j'ai créé un site PHP totalement indépendant d'Azure et j'ai pu déployer par FTP de la même façon que j'aurais déployé sur n'importe quel hébergeur finalement ou sur n'importe quelle machine pour déployer mon code. Et pourquoi le PHP fonctionne? Puisque par défaut, PHP est activé. Je peux, si je souhaite, le désactiver ou activer Java à la place sur un Tomcat, un Jetty, etc. Ou activer Python également si je le souhaite en choisissant ma version. Pareil pour le .NET Framework, etc. La dernière option pour héberger vos applications web, c'est d'utiliser Azure Virtual Machine qui va vous permettre d'utiliser le système d'exploitation que vous choisissez, un Windows ou un Linux, et qui va être cette fois une machine dite persistante. C'est-à-dire que s'il y a un problème ou que la machine virtuelle doit être redémarrée, vous allez pouvoir réutiliser au moment où elle va être redémarrée, ou une nouvelle va être démarrée à la place, vous allez utiliser les mêmes disques durs virtuels qui étaient utilisés avant le redémarrage. Ces disques durs virtuels, ils sont persistés dans Azure Storage, qu'on détaillera un petit peu plus tard, et qui est un stockage sur lequel toutes vos données sont distribuées au minimum 3 fois. Donc la chance de perdre une donnée, à un moment donné, un disque virtuel ou n'importe quel octet, finalement, est très très faible. Ça n'est d'ailleurs jamais arrivé dans l'histoire de Microsoft Azure. Donc ces environnements sont persistants, c'est-à-dire que vous allez faire ce que vous souhaitez sur votre machine, et vous allez pouvoir garder cette machine le temps que vous le souhaitez. Vous n'avez plus de notion de package spécifique à Azure ou de déploiement d'application. Là, c'est vous qui gérez votre OS, ce que vous avez dessus, et ce que vous voulez faire avec. Donc je vais tout de suite créer une nouvelle machine. Je vais utiliser le bouton nouveau, comme tout à l'heure. Je vais aller dans Compute, Virtual Machine, Quick Create pour avoir l'assistance simplifiée. On ira plus loin un petit peu plus tard. Je vais utiliser ce nom DNS là pour ma machine virtuelle. Je sélectionne un système d'exploitation, Windows Server 2012 R2, une taille de machine virtuelle, un nom d'utilisateur, un mot de passe, donc c'est le nom d'utilisateur, le nom de l'administrateur plutôt, et enfin le data center, donc encore une fois Dublin. La machine étant maintenant démarrée, je vais pouvoir lancer cette connexion RDP. Donc pour ça, j'ai un bouton Connect juste ici qui va me télécharger le fichier RDP. Si je l'ouvre, je vais pouvoir rentrer mon login et mon mot de passe, celui que j'ai configuré tout à l'heure pour l'interface d'administration. C'est celui-là si je ne me trompe pas. J'accepte l'erreur de certificat. Et je me log sur ma machine. Donc j'ai un petit peu triché, j'ai démarré l'installation d'IIS pendant que vous ne regardiez pas, et elle est bientôt terminée. Donc en attendant, ce que je vais devoir faire, c'est configurer également le port 80 pour être déjà autorisé sur le firewall de mon cloud service qui est devant ma VM. Je vous expliquerai tout ça en détail durant le module 3. Mais je vais rajouter donc ce port 80 et je vais le rajouter en tant que endpoint, donc cette point de terminaison standalone. Donc il sera seul, c'est-à-dire que je n'aurai aucun load balancing de configurer. Ça tombe bien, j'ai qu'une seule machine, j'ai pas besoin de load balancing. Je vais lui donner un petit nom, il me propose HTTP dans la liste, je vais l'utiliser. Et ensuite, je vais bien sûr prendre le protocole TCP, port 80, port 80, tout va bien jusqu'ici. Donc le port 80 va être prêt dans quelques minutes, hein, une fois qu'il aura fini de régler le firewall, de régler le load balancer, puisque même si le load balancer n'est pas utilisé vraiment pour load balancer, il est quand même dans le process, voilà, c'est fait. Et maintenant, j'espère que mon IIS est terminé, c'est bien le cas, je vais pouvoir fermer l'assistant. Et normalement, si je retourne dans mon dashboard, je vais pouvoir récupérer le nom DNS de ma machine. Je vais mettre HTTP devant Et normalement, si tout va bien, voilà, ça fonctionne. J'ai bien accès à la page d'accueil d'IIS. C'est la page qui est utilisée pour le site par défaut d'IIS une fois qu'on l'a installé. Donc, tout a bien fonctionné. Donc pour résumer, trois façons d'héberger son application web sur Azure. La première, c'est d'utiliser Azure Website, qui est la méthode la plus simple, puisque vous n'avez pas grand-chose à faire finalement au niveau configuration, au niveau infrastructure. Vous êtes dans un bac à sable, dans une sandbox qui est là pour vous simplifier la vie. Certes, vous avez un petit peu moins de contrôle sur la plateforme, et des fois ça peut être problématique, mais si ce n'est pas problématique, c'est vraiment la solution à privilégier pour héberger vos applications web. On va détailler ça dans le module 2. La deuxième solution, c'est l'utilisation des virtual machines. C'est une solution qui vous permet d'avoir le contrôle maximum sur votre infrastructure. Vous allez gérer l'OS de vos serveurs. Vous allez gérer l'installation de ce que vous voulez dessus. Si vous ne voulez pas un IIS d'ailleurs, mais que vous voulez un patch, vous allez l'installer vous-même sur les virtual machines. Si vous avez besoin de faire quelque chose qui n'est pas supporté dans Azure Website et que vous voulez installer par exemple un MySQL directement sur votre front, ce qui n'est pas forcément conseillé, mais ce qui est tout à fait possible, vous allez pouvoir le faire avec Virtual Machine, etc., etc. Et la dernière méthode, c'est l'utilisation des web et des worker roles. Et ce qu'on ne va pas détailler dans ce nouveau module, enfin dans les prochains modules, pardon, pourquoi? Puisque c'est la solution historique qui a tendance à disparaître vu les avantages des deux autres. Les virtual machines deviennent de plus en plus aussi simple que les web et worker roles grâce à l'automatisation qu'on va pouvoir apporter. Et les websites apportent une couche supplémentaire de gestion de la part de Microsoft Azure qui en font vraiment le mode à privilégier aujourd'hui si vous voulez faire du platform as a service. Donc les prochains modules, on va justement se concentrer sur Azure Website, sur Azure Virtual Machine, et ensuite on va aller plus loin avec le stockage des données, avec la gestion du cache, du CDN, ce genre de choses, et avec l'implémentation des bonnes pratiques, ce que vous devez faire, ce que vous devez penser quand vous déployez une application web sur Azure, quand vous développez une application web sur Azure. Il y a des choses importantes à penser dès le départ, et j'essayerai de vous les indiquer dans ce dernier module. Voilà, donc à très bientôt pour les prochains modules.